en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. C'est de l'Italie et de la relation que l'académicien Alphonse de Lamartine entretenait avec ce pays que nous allons parler dans cette émission en compagnie de Giovanni Dottoli, professeur de langue et de littérature française à l'Université de Bari et qui a consacré un livre aux voyageurs français en Italie intitulé « Le jardin d'Italie » paru aux éditions Honoré Champion en 2008. Alors parmi les voyageurs français et écrivains qui furent fascinés par l'Italie, il y en eut de nombreux. Il faudrait citer Chateaubriand et Flaubert et Stendhal, et plus récemment Yves Bonnefoy et Cocteau et Morand et même Pierre-Jean Rémy et Dominique Fernandez, mais on ne peut pas les citer tous, alors parlons aujourd'hui de Lamartine.
Bonjour Madame Renard, bonjour à tous les auditeurs de Canal Académie. C'est toujours un grand plaisir d'être là, surtout pour parler de ce sujet qui nous passionne.
Parce que non seulement il était poète, alors ce qui doit vous plaire, puisque vous l'êtes vous-même, mais il était aussi amoureux de l'Italie. Alors là, vraiment, Lamartine a tout pour vous plaire.
Historien, romancier, homme politique.
Absolument. Alors, je vais rappeler quelques mots de Lamartine, simplement les mots essentiels, car on ne peut pas faire toute sa biographie. Il était né à Mâcon, en France, en 1790, et il a été élu à l'Académie française, au fauteuil numéro 7, en 1829, après plusieurs tentatives sans succès d'ailleurs. Il faut d'ailleurs avouer, et soyons honnêtes, que l'Académie française l'avait remplacé par des noms qu'on a pas mal oubliés. Alors, Lamartine, lui, il fut académicien et quand il le fut, il soutint les candidatures de Victor Hugo, d'Alfred de Vigny, qui furent élus d'ailleurs, et aussi celle de Balzac, qui ne le fut pas. Alors, Lamartine, vous l'avez dit, Giovanni Dottoli, il fut officier, diplomate, poète renommé, historien, romancier, orateur très brillant et très populaire, homme politique qui exerça de hautes fonctions. Bref, le début du 19e siècle ne saurait compter sans lui. Alors, il voyagea évidemment en Italie, vous allez nous en parler, mais il voyagea aussi beaucoup en Europe et en Orient. Il fut député en 1933 et ministre des Affaires étrangères en 1848. Alors, quand se rend-il en Italie pour la première fois?
Il se rend en Italie la première fois en 1811. Donc, il était très jeune, vraiment. Disons que la première fois, il se rend en Italie vraiment par amour, par passion, parce qu'il adorait ce pays, et puis il y retournera plusieurs fois, plusieurs reprises, ou disons par passion, ou bien comme secrétaire d'ambassade à Naples, auprès du royaume de Naples, bien sûr, parce que nous sommes avant l'unité de l'Italie. Le royaume de Naples passera l'Italie grâce à la grande entreprise de Garibaldi, aidé aussi par Alexandre Dumas, il ne faut pas oublier, et donc à la suite des aides aussi de Napoléon III. Et donc, il à plusieurs reprises, il est à Naples, il est à Florence surtout, parce qu'il s'était marié avec une dame anglaise, elle aussi employée auprès du duc de Toscan de la part de la France. Donc, il y a plusieurs éléments qui entre dans la vie de Lamartine en ce qui concerne l'Italie. Et si les auditeurs de Canal Académie me le permettent, avant d'entrer vraiment dans le sujet, je voudrais lire ce passage extraordinaire de Lamartine, tiré de son cours familier de littérature, qu'il publie autour des années 1850. Et là, dans ces quelques lignes, il y a vraiment toute la profondeur de son amour pour l'Italie. L'Italie, pour moi, n'est pas un pays. C'est un mirage. Un mirage, je le souligne. Ce n'est pas de l'air qu'on y respire, c'est de l'âme. Une âme de feu, de langueur, d'enthousiasme, d'antiquité, de jeunesse, de mélancolie et d'héroïsme à la fois. On s'y fait dans la même minute poète, amant, citoyen, contemplateur cénobites. Les sensations n'y parlent pas en vous, elles y chantent. Elles y parcourent en une heure la gamme entière de toute une vie. Donc, je pense que là, dans cette,
un texte exceptionnel,
dans ce texte extraordinaire, très romantique, très lyrique, il y a d'un côté tout Lamartine, le lyrisme de Lamartine, l'orateur Lamartine, l'amoureux Lamartine, le voyageur Lamartine, mais en même temps, il y a vraiment ce lien étonnant qui s'est créé entre lui et l'Italie tout entière, en particulier la ville de Naples. Pourquoi la ville de Naples ? Parce que dès son premier voyage, il a été à Naples en 1811, et c'est là qu'il connaît ses premières grandes amours, notamment une jeune fille dont le prénom est passé à l'histoire, Graciella, qui était la fille d'un pêcheur, donc qu'il avait rencontré, disons, au bord de la mer, sur la plage. Il en est tombé amoureux et un jour, il consacrera un très beau roman à cette fille qui devient non seulement un grand roman, mais surtout un acte d'amour pour l'Italie. Parce que tout le roman voyage entre l'éloge de l'amour, l'éloge de la beauté de cette jeune fille très simple, je le répète, fille d'un pêcheur, mais d'une beauté sublime apparemment, et cet éloge extraordinaire pour le golfe de Naples, pour le ciel de Naples, pour ce qu'on pourrait dire la napoletanité, c'est-à-dire l'art de vivre des Napolitains qui n'étaient pas très riches à l'époque, qui ne le sont pas non plus de nos jours, mais apparemment tous les voyageurs français voient les Napolitains comme des symboles. Même Dominique Fernandez fera la même chose, Cocteau fait la même chose, c'est-à-dire un peuple qui vit au jour le jour, qui se construit la vie heure après heure et qui apparemment a une sorte de sensualité du monde et qui représente cette Italie de la séduction, cette Italie admirée, cette Italie qui est dans toutes les pages d'Yves Bonnefoy concernant l'Italie, c'est-à-dire cette Italie qui voyage entre la mémoire, le passé et le désir sensuel, réel, de jour le jour, pour la vie et pour les femmes. Parce que, je le répète, Lamartine a été vraiment, nous pourrions dire de nos jours, un grand tombeur de femmes italiennes.
Ah, elles avaient bien de la chance. Bon.
Un peu comme Stendhal. Voilà. Et par exemple, dès qu'il passe les Alpes, nous sommes cette fois-ci quelques années après, le 26 septembre 1816, il dit « J'éprouve comme une sorte d'ivresse ». Donc, le passage des Alpes, c'est le passage de l'Europe, qui est notamment un peu froide, dans l'imaginaire des philosophes, des intellectuels qui posent au centre de leur recherche la théorie du climat, le climat du Nord, le climat du Sud. Donc on passe de la froideur à l'ivresse. Et Lamartine sent profondément ce passage vers le monde du cœur et de l'amour. Par exemple, il écrit toujours à ce moment-là, « On ne se scandalisera peut-être de ce qu'à cette période grave de ma vie, donc il est très jeune, je retrouve en moi de tels regrets et de tels amours pour l'Italie de mes premières années. Mais si mon âme est universelle, si mon berceau est français, mes sens sont italiens. » Un peu comme Stendhal, il se sent tout à fait italien. L'imagination et l'amour ont eux aussi leur patriotisme. C'est le patriotisme de l'imagination et de la poésie qui m'attachait à cette patrie d'adoption où je fus jeté avant l'âge où l'on pense à s'attacher à sa patrie natale. Je voyais le monde et l'Italie du même premier regard. Je savourais l'air respirable et l'air d'Italie de la même première respiration. Je devais devenir italien de sensations avant d'avoir été français de cœur.
Alors là, c'est vraiment une déclaration, on ne peut plus, forte.
On pourrait penser que c'est des exagérations, que donc c'est du lyrisme très littéraire. Bien sûr qu'il y a ce côté-là, mais en même temps, il y a cet amour réel pour ce monde italien qui, comme le dit le titre de mon livre, est un jardin, et le sous-titre, l'endroit de l'art de vivre. Quand je dis art de vivre, ce n'est pas seulement la vie quotidienne, la gastronomie ou l'architecture. Non, c'est vraiment une philosophie du monde qui réussit à unir l'Orient et l'Occident, le Nord et le Sud. Donc, et cela, il retrouve surtout à Naples. Cela. Les pages de Stendhal disent un peu la même chose. Quand Stendhal était au San Carlo de Naples, le célèbre théâtre de Naples, il assiste aux premières représentation des opéras de Rossini, il a exactement la même sensation que Lamartine.
Mais peut-être l'avait-il lu, tout simplement, non ?
C'est on peut le penser. Les choses se passent au même moment. C'est la même période, donc ce n'est pas impossible. Mais ce qui est important pour nous, c'est le fait que ce paysage de l'Italie est même à l'origine d'une série d'observation de Lamartine, ce paysage oriental. Vous venez de dire justement qu'il a voyagé en Orient. Et alors, pour Lamartine et pour beaucoup de voyageurs français en Italie, l'Italie était déjà l'Orient.
Théophile
Gautier,
monde, oui.
Quand il décrit l'Italie, Venise surtout, il parle de Venise comme si c'était une ville orientale. Bien sûr qu'elle est aussi orientale, mais n'est pas vraiment orientale. Donc il y a ce côté de mirage dont on parle, ce côté de génie, Lamartine parle de génie italien, il y a une grande intensité de sensations et surtout il y a de l'enthousiasme. Encore voilà quelques mots de lui. Et comment n'aurais-je pas aimé l'Italie? Comment n'aurais-je pas eu foi? Je ne dis pas dans les armes, une longue désuétude les a rouillés. Heureusement, mais dans la vie et dans la fécondité de son génie en tout genre, n'avais-je pas respiré par tous les pores ce génie italien avant même d'avoir respiré celui de ma propre patrie? Voilà, il y a toujours une comparaison entre l'Italie et la France, et apparemment, l'Italie a toujours quelque chose de plus. C'est la patrie d'adoption, c'est la patrie du génie.
Choisie, bien sûr.
La France,
oui.
C'est le génie, mais là, il y a le génie de la langueur, du feu, de l'enthousiasme, de l'héroïsme.
Et pourtant, pas un titre de Lamartine, sauf Graziella, effectivement, ne porte véritablement un mot italien.
C'est vrai, dans plusieurs livres, il y a beaucoup d'inspiration italienne. Je dirais même que la rhétorique de Lamartine, très renommée, non seulement le Lamartine homme politique, il a joué un rôle important en 1848, il ne faut pas oublier, il a failli être président de la République. Donc c'était vraiment quelqu'un qui est un personnage fondamental. Donc cette rhétorique a quelque chose de la rhétorique italienne. Il ne faut pas oublier que la grande rhétorique française est de dérivation italienne, la Renaissance. Marc Fiumaroli l'a très bien prouvé dans son immense livre « L'âge de l'éloquence ». Donc Lamartine reprend cette longue et importante tradition latine et humaniste et de la Renaissance concernant l'art de la parole en Italie. Parole orale, parole écrite, parole publique, la parole d'un tribun, mais en même temps, parole d'un romancier, d'un historien. Et Lamartine est un homme, au fond, complet au point de vue de l'écriture, parce que, on vient de le dire, il est poète, il est historien, il est romancier, il est critique littéraire. On oublie ces critiques littéraires, mais qui sont, au contraire, très importantes. Il a vraiment compris l'importance des grands écrivains de son époque. Vous venez de dire justement qu'il a, c'est lui qui a présenté Victor Hugo à l'Académie française. Donc, Victor Hugo est très aimé, mais pas par tout le monde. Parce qu'il s'est exilé, donc il a eu un contraste important avec Napoléon III. Je disais que le titre de mon livre est « Jardin d'Italie ». Et voilà une preuve. Donc toujours Lamartine, dans Graciella, illustre le ciel de Naples. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Ce jardin immense. Donc l'idée du jardin est vraiment dans son œuvre. Est situé sur le bord d'un grand plateau de la campagne de Naples et en partie sur un versant qui offre le coup d'œil le plus riche d'Europe, sur le golfe d'émeraude et de saphir, sur les îles et les chaînes grandioses de montagnes qui l'encadrent et dont les nuances variées selon les zones de terrain de rochers et aux différentes heures du jour saisissent d'admiration le plus indifférent des observateurs. Donc vraiment, il y a le sens de l'harmonie du site, du spectacle, de la lumière, de l'ivresse, de l'ampleur du ciel, de la douceur du golfe de Naples. Et c'est beaucoup plus que des cartes postales. Quand on parle de Naples, il y a toujours cette idée, une carte postale à beauté, un peu fanée. Non, là, il est vraiment très, très sincère. Et malheureusement, on ne lit plus Lamartine.
Est-ce que vous l'enseignez, vous, dans
Moi, je l'enseigne
votre...
en Italie.
Oui, vous l'enseignez comme poète, disons, surtout ou comme
poète, notamment son célèbre poème « Le lac », mais aussi comme orateur et comme historien et comme critique littéraire, je viens de le dire, parce qu'il a marqué une époque. C'est quelqu'un qui devrait retourner même dans les écoles françaises.
Je suppose qu'on enseigne quand même encore un peu, non ?
Pas beaucoup.
Ah,
pas beaucoup.
Ben voilà une déception.
Une fois, on m'a dit, il n'y a qu'en Italie qu'on enseigne encore Lamartine. Bon, j'ai dit non, c'est pas vrai, mais enfin...
Giovanni Dottoli, un dernier extrait pour nous montrer l'amour de Lamartine pour ce pays.
Voilà, un petit extrait encore. Nous sommes en 1810, donc Lamartine n'a que 20 ans. Mais tout cela sera repris dans le cours familier de littérature. Il n'y a pas de prose dans cet air. Tout y est musique, mélodie, extase ou poème. C'est sans doute pour cela que Rossini ou Mozart transportent au-delà des Alpes, dans tout l'univers, une langue de mélodie qu'aucune autre partie du monde n'a ni inventée ni entendue. Ces hommes sont la vibration vivante et notée de tous les sens de cette terre de sensations. Voilà, je souligne, terre de sensations. Sensations qu'aucune autre langue ne peut rendre en parole. Donc même un grand éloge à la langue italienne. Tant ces lyrismes intérieurs dépasse les langues parlées. Ce qu'on ne peut pas dire, on le chante. La musique, peut-on dire aussi, est la poésie des sensations. Rossini est le Pétrarque de cette musique. Donc là, il est vraiment sur la lignée de Stendhal, qui, il ne faut pas l'oublier, a écrit une merveilleuse vie de Rossini, qui se lit encore de nos jours, qui est, fait partie même du livre de poche. Il a aspiré l'air de sa patrie et il l'a soufflé sur tout l'univers. La brise mélodieuse qui court sur l'Italie fait corps avec l'Italie elle-même. Donc là, c'est un grand éloge de Rossini, de Mozart. Et il ne faut pas oublier que Mozart, oui, vivait à Vienne, mais il s'est beaucoup formé en Italie. Son Don Juan de Mozart, est en italien, parce que l'auteur du livret est Lorenzo da Ponte. Donc, il y a toujours ce côté...
Il y a beaucoup de ramifications,
méditerranéen,
finalement, à cette époque. Oui.
Et en même temps, héros méditerranéen autour de la musique et de la civilisation.
Merci, Giovanni Dottoli. Je rappelle que vous pouvez trouver des informations relatives à Lamartine sur le site de l'Académie française et que sur le site de Canal Académie, en tapant le mot-clé « Italie », vous aurez la liste complète de toutes les émissions que nous avons consacrées à cette série des voyageurs écrivains français en Italie, Cocteau, Stendhal, Camus, Chateaubriand, Émile Zola. Une belle série en vérité. Merci à vous, Giovanni Dottoli.
Merci, Madame Renard, et merci aux auditeurs qui auront la bonté et la joie de suivre ces émissions.